Alors, la seconde séance à laquelle les organisateurs vous invitent à réfléchir s'intitule « La scène », entre parenthèses, seconde, point d'interrogation, fermez la parenthèse, de la revue électronique. Je pense que cette parenthèse n'est pas tout à fait un hasard. Évidemment, les revues se transforment en suivant les nouvelles technologies, explorent de nouvelles façons qui ne sont pas trop balisées actuellement et qui s'inventent au fur et à mesure de se libérer du papier, papier qui pourtant nous est si cher. Peut-être que les questions économiques sont au cœur de certaines de ces transitions, mais pas seulement, bien entendu. La recherche de nouveaux publics, l'interactivité, la possibilité de créer des lieux différents à la fois d'échanges, de créativité, etc., animent la plupart de ces transformations. La frontière reste aussi, il me semble, assez floue pour les usagers entre ce qui est encore... Puisque, dans le fond, toutes les revues ont un site déjà au départ, la frontière peut être floue entre ce qui est seulement le bulletin ou ce qui est seulement la mise en ligne du contenu déjà publié par ailleurs par une revue et ce qui probablement devient, et on va le voir, j'en suis persuadé, autour de cette table, un nouveau mode de circulation des idées propres aux revues culturelles et universitaires. Donc comment est-ce que la mise en ligne du contenu va changer nos manières de voir le monde? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, j'espère, ce matin. Alors, sans tarder, je vous présente les premières participantes qui sont issues de DPI. Paul Macrous et Émilie Souza sont toutes les deux doctorantes à l'université à l'UQAM. La première en sémiologie, la seconde en études et pratiques des arts. La première s'intéresse à l'effet de présence. Ses objets d'étude sont principalement liés aux formes d'art émergentes sur le web. Elle collabore par son écriture à plusieurs revues d'art actuel et contemporain et participe au comité de rédaction de DPI, la revue électronique du Studio X, ainsi que Bleu Orange, revue de littérature hypermédiatique. Elle travaille comme adjointe au laboratoire sur les œuvres hypermédiatiques, NT2. Depuis plus d'un an, elle rédige son blog qui s'appelle « Effet de présence », visant à fournir des réflexions, références et œuvres en lien avec la question de l'effet de présence en histoire de l'art. Et sa collègue, Émilie Houssa, qui, je crois, a signé en tant que rédactrice en chef, le dernier numéro de DPI, le numéro 13, étudie donc actuellement à l'UQAM en études et pratiques des arts sous la direction de Joanne Lalonde. Son sujet de recherche porte sur les nouvelles formes visuelles d'information au regard des technologies médiatiques contemporaines, une étude qui s'articule autour de différentes notions comme celle de documents immédiats ou celle de fiction documentaire. Le champ d'analyse spécifique pour ce projet est le cinéma documentaire. Ces recherches alimentent une réflexion plus personnelle menée au sein du comité de régulation de DPI et de groupes de recherche comme Figura, groupe pour lequel elle occupe un poste d'assistante de recherche pour le projet Eric Lint. Alors, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, notre présentation s'intitule DPI, point DPI, culture et pixels au féminin. Point DPI est né de l'envie de créer un forum interdisciplinaire à la fois créatif, critique et engagé socialement. Point DPI répond à la nécessité d'avoir un lieu d'échange pour les femmes chercheurs travaillant sur les technologies, les femmes artistes œuvrant dans le domaine des nouveaux médias et les communautés cyberféministes. Point DPI, pardon, signifie dot per inch, point par pouce, mais au-delà d'une résolution numérique, le point du titre et les points pixels évoqués dans l'expression font aussi allusion au point de couture. Cette idée rappelle à quel point le travail des femmes a constitué le fondement de la pensée et de la visualisation de la matrice des ordinateurs. Et l'engagement de Point DPI repose aussi sur la mise en avant de cette idée. Point des pays est une revue relativement jeune. Son premier numéro a paru en 2004. Elle a 4 ans. Et comme nous venons de le voir, son mandat est multiple. Et cela entraîne de nombreuses questions autour d'une interrogation fondamentale qui est comment élaborer une revue spécialisée à partir de la triade art, femmes et technologie. Par exemple, comment le lien entre la revue et le studio XX est-il articulé, mais aussi en quoi Pointe des Pays se positionne-t-elle comme une revue engagée, ou encore quelle place tiennent les femmes dans le processus de la revue, et enfin, quelle place occupent les technologies dans la revue, tant dans son élaboration que dans les sujets qu'elle traite. Après un rapide retour sur les origines de la revue, nous tenterons de classer ces questions sous 3 grandes catégories, reprenant le mandat de Point des Pays, engagement, femmes et technologie. Donc, je vais revenir brièvement sur les origines de Point des Pays et le rapport avec le studio XX. Le premier numéro de Point des Pays voit le jour le 25 août 2004. Et ce numéro est le produit d'une pensée et d'une envie née lors de réflexions lancées durant une table ronde du festival HTML de 2001. L'idée est alors de créer un espace qui encourage la discussion et le partage entre différentes femmes artistes et activistes. Ces échanges se veulent internationaux et le web apparaît comme le meilleur moyen de constituer ce forum en continuité du festival. Le studio XX décide donc d'allouer un budget pour démarrer une revue et l'équipe du comité de rédaction se forme peu à peu. D'abord à partir des membres du studio XX et plus en plus en faisant appel à des personnes extérieures au studio, mais aussi en désignant des personnes spécifiquement responsables de Point des Pays au sein du comité de programmation du studio XX. L'aspect international de la revue se développe également au fur et à mesure des numéros, en intégrant des artistes et des auteurs qui résident en dehors de Montréal, du Québec et parfois même d'Amérique du Nord. Et en parallèle, la forme même de Point des Pays se construit toujours encore et s'est construit au fil des années. Aujourd'hui, le comité de rédaction est composé de membres extérieurs au studio XX. Et ce comité reste cependant dirigé par la coordinatrice Chantal Dumas, qui est également responsable à la programmation du studio XX. Qui est ici présente. Et chacun des numéros se compose de 3 articles, de 3 chroniques, dont les auteurs sont recrutés par appel de texte. Les textes peuvent être en français et en anglais. L'éditorial ainsi que les résumés des articles sont dans les 2 langues. Pour autant, cet ensemble qui semble plus ou moins ordonné reste encore à préciser. Et notamment, comme je l'évoquais un peu plus haut, comment le lien entre cette revue et le studio XX, le centre d'artistes auquel elle est affiliée, est-il articulé? D'un côté, il semble que l'affiliation de Point des Pays au studio XX lui donne une force dans ses prises de position fondamentales, comme sur le rapport femmes et technologie, par exemple, et également une visibilité importante, relativement importante pour une revue quand même très jeune, qui reste jeune. Et de l'autre côté, cette affiliation peut être aussi vue comme une partielle déviation face à la volonté des fondatrices de la revue, qui la voyaient avant tout comme une possibilité d'ouverture du studio XX. Or, justement, on peut voir que l'ensemble de ces dynamiques et de ces questionnements pose finalement l'originalité même de Point des Pays en lui offrant une ligne de force, une ligne plus ou moins éditoriale, qui reste toujours à retravailler, à re-questionner presque à chaque numéro, notre comité se questionne. Un des aspects à élaborer, notamment, c'est l'engagement de la revue. On peut maintenant regarder comment Point des Pays peut se définir comme une revue engagée. C'est-à-dire comment va se traduire l'engagement pour une revue culturelle aujourd'hui. Être engagé, c'est une expression très courante et peu définie et souvent mal interprétée. Être engagé, c'est un état, certes, comme le souligne le Verbette, mais c'est aussi paradoxalement une action. On est rarement engagé dans le rien faire. On s'engage dans quelque chose, mais aussi pour, contre ou avec quelque chose. Alors que signifie se définir comme une revue engagée? Qu'est-ce que cela implique? Et je vais prendre un exemple, c'est dans un texte en 40 points, intitulé « Que faire ?» de Jean-Luc Godard. Il réfléchit à 2 actions souvent confondues l'une avec l'autre et qui posent la complexité de la volonté d'engagement. Donc la première action, faire un film politique. Et la deuxième action, faire politiquement un film. Ce qui s'applique aussi ici au film me paraît tout à fait pertinent pour les revues. Je vous montre la citation. Ferrin, pour Godard, donc c'est un extrait de ce texte en 40 points, c'est donner une vue complète des événements au nom de la vérité en soi. Faire deux, c'est de ne pas fabriquer des images du monde trop complètes au nom de la vérité relative. Faire un, c'est dire comment sont les choses vraies. Faire deux, c'est dire comment sont vraiment les choses. Donc, si je me permets ce détour, c'est qu'avec ces quelques phrases, il me semble que Godard définit précisément l'ambiguïté, mais aussi toute la radicalité de se revendiquer engagé. Une revue est engagée dans le choix des sujets qu'elle traite, évidemment, mais aussi et surtout dans la façon dont elle va les traiter. Ce traitement comprend le choix des gens désignés pour développer les projets, mais aussi le mode de production, de financement, on en a un peu parlé tout à l'heure, et de diffusion. Si on jette un rapide coup d'œil au mandat des revues culturelles qui se revendiquent engagées, toutes reviennent à la même volonté, proposer par leur page ou leur site une plateforme alternative qui dépasse le système officiel imposé. Point DPI s'inscrit dans cette lignée. Elle propose une plateforme alternative ouvrant un espace de discussion et d'échange pour les femmes sur les arts et les nouvelles formes de technologie. Cet espace se crée via deux modes de fonctionnement qui sont deux véritables revendications, l'open source et la voix des femmes. Point DPI propose en effet son contenu en open source en utilisant Drupal. Drupal, c'est un logiciel gratuit qui permet à des individus et des groupes d'utilisateurs de publier, gérer et organiser un contenu sur un site web. Ce système permet de sortir du formatage visuel et économique imposé par les grandes compagnies de logiciels. Et ça permet également de réserver nos subventions pour payer les auteurs et les artistes qui collaborent au numéro. Le comité de rédaction reste, lui, évidemment bénévole. Ces femmes, plus exactement leurs paroles, leurs idées, constituent l'autre notion fondamentale qui fait de Point DPI une revue engagée. Un engagement non pas sur les femmes, mais avec, par les femmes.
Donc, comment on élabore une revue féministe sans faire précisément d'études féministes et sans s'inscrire dans un courant de pensée féministe précis? Donc ça, c'est comme une grande question pour notre ligne éditoriale. Donc, il y a certainement plusieurs manières d'être féministe et par extension de concevoir une telle revue. Ceci étant dit, la plupart des revues adoptant une posture explicitement féministe sont des revues scientifiques révisées par des pairs dans lesquelles on retrouve des articles relevant spécifiquement des études féministes. Mais Point DPI n'est pas une revue d'études féministes à proprement parler, comme peuvent l'être les Pénélope, Labrisse ou Bitch Magazine, pour ne nommer que celles-là. Ces revues s'intéressent de manière très pointue à l'analyse de l'expérience sociale des femmes, de la place des femmes dans la société ou dans le rapport qu'elles entretiennent avec les phénomènes médiatiques. Mais par son mandat de diffuser principalement des textes traitant des pratiques artistiques et technologiques de femmes et par son engagement à diffuser les textes d'auteurs féminines, Point DPI fait littéralement une place aux femmes dans la société. Elle répond tout de même à ce que la revue Labrisse définit comme une impérieuse nécessité théorique d'interpeller, du point de vue des femmes, un savoir dominant construit à peu près exclusivement à partir de l'expérience et des représentations des hommes. Plusieurs collaborateurs de revues féministes, on pourra le constater, sont toutefois des hommes de sexe masculin. Donc, Désolée. Je voulais suivre mon texte, mais en même temps, ça m'a fait un horrible pléonasme. Donc, la Centrale, qui est un centre d'artistes féministes, s'est récemment penchée sur le féminisme et la place de l'homme au cœur de ses définitions lors de ses événements Table ronde, Gender Alarm, Nouveau féminisme en art actuel. La galerie s'est dotée d'un nouveau mandat qui embrasse une forme de pratique féministe qui ne délimite plus le centre comme lieu réservé exclusivement aux femmes. Donc, le mandat révisé de la Centrale prend en compte une définition du féminisme qui est très particulière, que je n'ai pas laissé tout élaborer ici. Mais Point DPI, jusqu'à maintenant, situe moins ses réflexions dans la définition d'un courant de pensée féministe ou encore dans une promotion d'une pensée féministe spécifique. Elle agit plutôt comme lieu de discussion pour les femmes. Donc, sur ce critère de la revue, son rôle est entièrement en acte. C'est pourquoi Point DPI s'est efforcé, jusqu'à maintenant, de maintenir le statut d'une revue rédigée et coordonnée uniquement par des femmes. La revue questionne ainsi, à sa manière, constamment la place des femmes dans la société, si bien dans le choix des sujets des textes publiés que dans le fait de la participation féminine dans leur élaboration. Elle offre ainsi un espace alternatif sans pour autant qualifier les perspectives abordées de proprement féminines et sans générer une auto-réflexion sur un état de marginalité. Point DPI constitue peu à peu aussi des corpus d'œuvres d'artistes féminines, donc cet élément m'apparaît primordial lorsqu'on considère l'histoire de l'art, par exemple, qui, avec son lourd bagage, est une histoire d'hommes artistes essentiellement racontée par des hommes. Donc, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Mais la revue génère ainsi un lieu où se tisse, au fil des numéros et des récits de théoriciennes et artistes, une mémoire collective de femmes préoccupées par les enjeux de différentes pratiques culturelles, technologiques. Donc, on croit essentiel de promouvoir l'œuvre des femmes, mais on souhaite également que les auteurs soient libres de réfléchir sur les phénomènes qui les intéressent. Donc, ceci étant dit, tout en encourageant principalement les textes portant sur des pratiques féminines, les perspectives de femmes sur différents phénomènes technologiques, sans que ceux-ci soient soumis à l'examen du genre, sont aussi importantes pour la revue. La dernière particularité de Point des Pays qui a été évoquée en introduction était l'aspect technologique. Donc, Point des Pays est une revue électronique qui parle de pratiques technologiques. Comment on rend signifiant cet aspect de la revue? Point des Pays, jusqu'à tout récemment, se présente comme plusieurs revues artistiques en ligne. Elle s'apparente à une revue papier avec une table des matières élaborée selon une structure arborescente, ayant l'avantage pour le lecteur de pouvoir s'orienter facilement. Alors, le caractère rhizomatique et hypermédiatique que permet le web est peu exploré, si ce n'est de quelques hyperliens et des images. L'hypermédia permet bien sûr l'arrimage de texte, son, images, vidéos et animations dans une même interface. Généralement, Point des Pays utilise uniquement des photographies pour créer la bannière des différents numéros. Les bannières, ce sont les images que vous avez vues sur le PowerPoint au bas de l'écran. Mais pour le numéro 10, la coordonnatrice et rédactrice en chef, Chantal Dumas, a proposé à une artiste ayant participé au Festival HTML d'adapter une de ses œuvres pour créer une animation pour la bannière sur la page de la revue. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est l'œuvre, disons, tangible. L'œuvre était aussi discutée au sein de ce numéro dans un des articles qui rendait compte du Festival HTML. À l'origine, She, qui est le nom de l'œuvre, est une installation comportant 5 écrans apposés au mur. On y présente des créatures numériques 3D identiques se détachant sur un fond blanc de la même couleur que le mur de la galerie. Les créatures paraissent se déplacer d'un écran à l'autre. L'œuvre fonctionne à l'aide du réseau, permettant de synchroniser le déplacement des figures. Elle donne l'impression de s'accoter sur le cadre écranique, de toucher l'intérieur de l'écran, mais surtout de quitter leur espace virtuel pour traverser l'espace tangible des spectateurs. Alors, cette œuvre, qui jouait déjà sur des rapports spatiaux, vient créer un effet particulier dans son adaptation web. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, la créature 3D, ici, elle interfère par le toucher avec les éléments 2D de la page, ce qui crée un effet spatial intéressant. Tu peux-tu faire des sons?
Ah oui.
Ça, c'est l'autre... Donc, l'animation se poursuivait aussi dans la table des matières. Alors, cette expérience récente nous encourage à explorer davantage l'incorporation de sons, de vidéos et d'animations au sein de Point des Pays, les possibilités technologiques évoluant toujours et permettant plus facilement ces arrimages. Le volet technologie place Point des Pays au cœur des préoccupations actuelles et par conséquent, il situe les femmes au sein de ces enjeux spécifiques. Cet axe de la revue permet donc d'ouvrir encore une fois un espace pour les femmes pour discuter d'une thématique actuelle dont les problématiques sont en constante mouvance. Alors, je vais conclure en disant que du fait du jeune âge de la revue, les positionnements qu'on vient d'exposer ne sont pas encore bien affirmés et certaines questions restent à discuter. Cette présentation nous a permis de mettre en lumière des interrogations fondamentales pour les revues qui se penchent sur ces entités que sont l'engagement, le féminisme et les technologies. Mais s'il est important de se définir par rapport à elles, celles-ci sont en transformation constante. Il est donc pertinent de repenser régulièrement nos positionnements face à elles. Merci.
Alors, merci beaucoup à Émilie et à Paul. Et je vais maintenant donner la parole à Pierre Robert, qui anime une nouvelle revue, Archer. Pierre Robert est le fondateur de ce périodique électronique, un périodique consacré à l'art web, à la cyberculture artistique, à l'interactivité ainsi qu'aux nouveaux médias. Il en a été le responsable éditorial de 97, année de sa fondation, jusqu'en 2007. Détenteur d'un baccalauréat en histoire de l'art et d'une maîtrise en études des arts de l'Université du Québec à Montréal, Pierre Robert cumule aussi une scolarité de doctorat en sémiotique visuelle. Il enseigne l'histoire de l'art au Collège Lionel Groulx et s'associe régulièrement à des projets universitaires et événementiels concernant les arts médiatiques, l'histoire de l'art et la cyberculture. Il est l'auteur de nombreux articles dans diverses publications et revues.
Alors... Je remercie d'abord les gens qui ont eu l'idée de ce colloque qui me paraît fort pertinent et surtout rare. Donc, j'invite tout le monde à solliciter un deuxième volet à ce colloque. Pour ma part, donc, je représente la revue Archer qui existe donc depuis 1997. Et actuellement, la responsable éditoriale de la revue, c'est Christine Palmieri. Moi, j'ai quitté mes fonctions de responsable éditoriale depuis 2008. Alors, je suis là donc pour faire un peu le résumé de la vie de cette revue qui se poursuit, et d'une part. D'autre part, évidemment, le contexte général de l'apparition de la revue Archer, c'est évidemment associé à l'éclosion littéralement du web qu'on appelait à l'époque graphique, donc à partir du milieu des années 90, la possibilité d'intégrer plus facilement des images sur les pages web qui, sur les pages qui ne s'appelaient pas web auparavant, mais qui n'étaient que du texte et des hyperliens. Donc, il y a eu donc cette éclosion de l'image qui a certainement permis au web, d'une part, de devenir une plateforme de diffusion d'informations très populaire, et aussi a permis donc à l'émergence d'idées, d'initiatives, de mettre en ligne des revues dans la matière numérique. Vous excuserez mes petits arrêts comme ça, c'est que je fais ça un peu spontanément. J'ai pas vraiment eu tout le temps qu'il fallait pour me préparer. Cela dit, ce qui est important donc de retenir de tout ça, c'est que aussi au milieu des années 90, donc l'intérêt pour une revue numérique pour nous, c'était surtout de révéler. Et là, le mot s'avère, à mon avis, juste révéler tout ce qui se faisait d'un point de vue international et dont on n'était pas au courant. Parce que déjà, dès l'émergence du web graphique, et même avant, il y avait d'innombrables créations de tous ordres, tant d'un point de vue narratif que d'un point de vue visuel, à travers les différents scientifiques qui s'intéressaient au monde graphique numérique. Donc, il y avait déjà là une certaine somme d'œuvres qui étaient dédiées à l'Internet et donc dédiées à l'ordinateur personnel. Évidemment, l'étendue du réseau a fait en sorte qu'il s'est créé aussi de nouveaux réseaux de communautés en ligne. Et ça, c'est aussi un événement fondamental dans le sens où ça a permis justement de créer des communautés qui n'auraient pas pu naître autrement. Donc, il y a vraiment une spécificité de l'Internet relativement à sa vie propre. Alors, donc, c'est ce qui a permis donc d'associer des gens qui ne se sont peut-être jamais vus concrètement. Donc, il y a eu cette élaboration de réseau et il y a aussi eu l'apparition d'un réseau critique, donc de gens qui aussi produisaient du discours sur ces nouvelles pratiques artistiques. Et ce nouveau discours n'apparaissait pas non plus à l'époque, du moins dans les revues traditionnelles sur papier. Alors, si ça l'était, ça l'était de façon très, très marginale. Et donc, comparativement à ce qui se produisait sur le web, il y avait un déséquilibre évident. Donc, nous, c'était de révéler un peu tout ça. Et en même temps, c'était un point de diffusion et un point critique de ce qui se faisait. Puisque dès lors, puisqu'on parle d'hyperlien, dès lors qu'on parle d'une œuvre précise, ben, l'hyperlien nous amène directement à expérimenter cette œuvre en ligne. Évidemment, ici, je parle de l'art web plus spécifiquement. Et encore aujourd'hui, je considère que l'art web n'est pas, malgré les 10 années qui nous séparent de ces premiers pas, n'est pas encore nécessairement très, très en vedette. Et ça reste toujours un peu en marge des productions artistiques que l'on voit en galerie ou en musée ou ailleurs, à travers des événements particuliers. Et donc, je trouve que de ce point de vue, la pertinence de la revue demeure. D'autant plus que ce qui est intéressant, je crois, de la revue Archer, c'est qu'en même temps, la revue Archer a suivi d'année en année l'évolution même des technologies Internet et ce qui amenait aussi de nouvelles créations hein, qui permettaient donc l'inclusion du vidéo, d'animation, de technologie flash, etc. Donc, c'est que Archie donc se retrouve à représenter à sa façon donc l'historique un peu de l'évolution de l'art via les nouvelles technologies. On a élargi aussi notre point de vue éditorial aux œuvres interactives qu'on retrouve en galerie, aux nouvelles technologies, où là, on peut aller vers aussi la robotique, mais aussi avec les nouveaux discours, les nouvelles pensées, les nouvelles études qui se font d'un point de vue universitaire. D'un point de vue de la diffusion, c'est intéressant pour nous aussi parce que à l'époque, j'imagine que l'ensemble des gens qui ont pris l'initiative de créer ou de poursuivre ou de régénérer une revue, on fait face au même problème. Les subventions sont pas très très riches et donc les revues naissantes papier font face à un problème majeur qui est celui de l'argent. Parce qu'il y a, je ne sais pas, je dis ça approximativement, peut-être un 50-60% des budgets qui sont consacrés à l'impression elle-même, à tout le travail de l'impression comme tel. Alors que sur le web, toute cette dimension-là est presque coût zéro, donc ça nous permettait d'être présents et de présenter ce en quoi on croyait important, donc avec des revenus... zéro. Alors, ces revenus zéro avaient ceci de séduisant, c'est qu'il n'y avait pas de contraintes politiques. Et d'autre part, il y avait aussi l'aspect que, comme c'était sur Internet, ça devait d'être gratuit. Parce que malgré une expérience qu'on a faite suite à quelques années d'évolution avec la revue, de tenter d'aborder ça avec un abonnement payant en donnant une plus-value à tout notre système de recherche par base de données et tout. Tout ça s'est avéré un fiasco dans le sens où les internautes étaient vraiment pas intéressés à payer pour ça, surtout que en plus, c'est dans un créneau assez spécialisé et donc ça correspondait pas du tout à la pratique même de la recherche d'informations sur Internet. Donc, on s'y attendait, mais on l'a tenté quand même. Et ça n'a pas duré. On a même remboursé ceux qui avaient généreusement pris part à cette aventure. Donc, et en même temps, ça faisait la preuve qu'effectivement, l'interréseau, le réseau Internet, c'est quelque chose de particulier. Donc, il faut considérer comme un média à part entière et qu'il a ses propres règles, son propre éthique et ses propres dimension. Et donc, c'est ce qui est intéressant d'autre part, cette gratuité, et c'est que tous peuvent y avoir accès, peu importe le moment, peu importe l'intérêt, peu importe la requête qui est à la source, d'une direction vers la revue Archie. Alors, n'importe qui à travers le monde qui s'intéresse à l'art et aux nouvelles technologies va voir apparaître d'une façon ou d'une autre, un lien vers la revue Archie. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, aussi, ça a un pendant au niveau de la communauté, du réseau, de ce qui forme un peu les revues traditionnelles et dont on parlait un peu tantôt, c'est que pour nous, le réseau reste, il va demeurer virtuel. Donc, pour nous, il n'est pas important d'avoir des contacts concrets avec les gens, de voir nécessairement leurs photos ou de savoir... qui sont, ce qu'ils font, qui sont leurs enfants ou pas. Alors, c'est sûr que c'est pas des notions qu'on rejette, mais en soi, sur Internet, c'est pas une dimension qui devient importante. Ce qui est important, c'est vraiment de nourrir, d'alimenter une pensée qui se dirige vers les arts, les nouvelles technologies. Et ça peut se faire totalement virtuellement via Internet. D'ailleurs, clientèle, si on peut dire, est composée, à 50% de Français de France, un peu de Belges, et le reste, c'est Québécois, Canadiens, et il y a peut-être un 10% qui se répandent dans 35 pays à travers le monde. On a environ 1500 visiteurs par mois, et on publie actuellement 5, on n'appelle pas ça des numéros, on appelle ça des sommaires, en fait, puisque c'est relié à une base de données et que tout ça, finalement, est accessible n'importe quand, en tout temps, de 97 à aujourd'hui. Donc, il y a une autre aussi perception de la dimension de la ressource. Et je pense que, de ce point de vue-là, et je vais faire peut-être une boutade, mais... ou un jeu de mots, mais je pense que la revue papier est plus virtuelle que la revue électronique parce qu'elle disparaît rapidement, parce que sa diffusion est souvent réduite à quelques centaines d'exemplaires, un millier ou tout au plus. Alors, les grandes revues comme Parachute, par exemple, publiées à 3000 exemplaires, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, j'avais créé le site Internet pour la revue. Et ce qui veut dire que, alors que pour nous, ben, il y a encore plein de gens qui vont faire référence à des articles de 97 et c'est toujours là, ça va toujours être là, tant et aussi longtemps qu'on va déposer les textes et la base de données sur un serveur. Alors donc, ça change complètement la donne. Cependant, et je terminerai peut-être là-dessus d'un point de vue plus politique, justement, malheureusement, on a des subventions depuis l'an 2000 du Conseil des arts du Canada. Merci beaucoup, Conseil des arts du Canada, sans qui on aurait été plus que pauvres. Mais d'un autre côté, je regrette, et je le dis pour ceux qui sont peut-être pas avisés ou de ça, que du point de vue du ministère de la Culture québécois, c'est clairement indiqué sur le site des bourses qui concerne les revues, qu'eux refusent de subventionner toute revue électronique. Point. Alors, je considère que c'est une discrimination médiatique et qu'il n'y a pas sa place. Et je ne comprends pas pourquoi c'est encore là, malgré quelques protestations ici et là. Alors, je vous remercie beaucoup.
Merci, Monsieur Robert. Et nous allons passer la parole à Philippe Gageant de la revue 24images.com. Philippe est ingénieur de formation et breton d'origine. Il dirige la revue de cinéma 24 images, critique de cinéma depuis une quinzaine d'années. Il détient une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal. Il est également programmateur au Festival du Nouveau Cinéma depuis 1999 et enseigne parfois la critique cinématographique. Ses activités l'ont amené à participer à de nombreux festivals et jurys.
Bonjour.
Bonjour.
24images.com, non? Non, pour nous, de plus en plus, 24 images, on ne le considère plus comme une revue papier, plus comme un site internet ou plus comme un DVD, puisqu'on fait des DVD, mais bien comme l'ensemble des trois. Ce qui m'importe pour moi, c'est de définir ce qu'on veut faire dans une revue. Pour nous, dans un premier temps, ce n'est pas la forme, et justement, c'est la forme qui va compter. Nous, on a une pensée à déployer, donc avec un objet qui est le cinéma, avec une ligne éditoriale particulière qui est la défense d'un certain cinéma, le cinéma d'auteur. Et cette pensée, on va la déployer en fonction d'un médium. Ça serait aberrant pour nous, critiques de cinéma, de ne pas penser le médium. Donc, nous étions une revue papier. Nous sommes aujourd'hui une sorte d'hypermédia, alors là, bien réel, puisque nous éditons des DVD, un site web et une revue papier. Et bon, on va parler surtout du site web, je pense, mais avant tout, la question a été, cette pensée va se déployer comment en fonction du médium. Je vais tenter d'élargir ça un peu. Pour moi, une revue, ça serait une sorte, dans ce rapport au monde, ça serait un rapport à une sorte de Sainte Trinité. Il y a les faits. Alors les faits, bon, c'est l'élection d'Obama, c'est la sortie d'un livre, c'est Céline Dion qui quitte Las Vegas, c'est, bon, et ainsi de suite. Après, il y a l'actualité. L'actualité, pour moi, il s'agit d'agréger ces faits. Donc on va choisir, en soi, qui est déjà une prise de position, un certain nombre de ces faits, et on va les mettre ensemble pour voir si ça fait du sens. Et enfin, il y a la critique. La critique ramasse cette actualité et tente de la mettre en perspective. Pour nous, il serait important de se situer au niveau de la critique, mais il faut voir que, suivant notre médium, on ne va pas se mettre en perspective de la même manière. Le DVD, c'est fait pour voir. C'est-à-dire qu'on parle d'un objet, mais un objet qui force est de constater, n'est pas toujours très présent. Donc, on édite des films, soit du patrimoine qui ne sont pas accessibles, soit des films récents qui n'ont pas de diffusion ou peu s'en faut. Donc, des documentaires ou des courts-métrages, principalement. Donc, ça, c'est pour voir, parce que lorsqu'on met en perspective, c'est bien de savoir de quoi on parle. Ensuite, on a un site, je le situerai en deuxième, parce que ce qui est très important, et là je vais répondre à Pierre, c'est que pour nous, le site, il permet la réaction. Il est en prise extrêmement directe, d'abord, tout simplement, par son mode d'élaboration. Je veux dire, il suffit d'écrire un texte et de l'uploader, donc... Déjà, c'est présent. Ça nous permet de réagir extrêmement vite. Et évidemment, en termes de diffusion, ça permet aussi à celui qui le souhaite de réagir à cette réaction. Enfin, il y a la revue. La revue, elle, c'est long. C'est long. Il y a 5 numéros par an, mais une revue, c'est en gros, c'est un mois et demi ça prend un mois et demi pour la faire, quand ce n'est pas évidemment beaucoup plus, puisqu'il y a des dossiers qui sont préparés à l'avance. On ne peut pas prétendre être dans l'actualité la plus brûlante. Et c'est ce qui va nous servir. C'est-à-dire que l'espace critique va se déployer d'autant plus facilement que nous sommes obligatoirement dans la mise en perspective. On ne peut plus prétendre être dans l'actualité quand on est une revue papier, et c'est tant mieux. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour nous, si 24 images est un hypermédia, si on veut le déployer selon ses différentes formes et si on veut utiliser la spécificité de chacune de ces formes, c'est que pour nous, c'est une chance. L'ensemble de ces moyens sont complémentaires. Ils vont permettre de déployer cette pensée de manière complémentaire. Et donc, pour nous, la logique voudrait que chacun se renforce. C'est évident pour le DVD vis-à-vis de la revue. Quand on parle d'un film, c'est pas mal que les gens l'aient vu ou qu'ils le voient par la suite. C'est leur choix. Mais c'est aussi vrai pour le site qui, lui, vient à la fois en amont, donc qui nous permet d'exister de façon extrêmement rapide, et en aval, parce que le site, dans cette réalité virtuelle, d'une certaine manière, non seulement conserve les traces, mais permet évidemment de l'alimenter, d'être alimenté beaucoup plus rapidement, soit en amont, en aval, et ainsi de suite. C'est-à-dire que son rapport au temps est totalement différent. Ça, c'est bien, parce que du coup, ça nous permet nous-mêmes de réagir par amour à nous-mêmes. Vous allez me dire, c'est un peu un vase clos. Non, je veux dire, avant tout, nous sommes peut-être nos premiers lecteurs, et nous avons le droit et le devoir, à mon avis, de réagir. D'où, je voulais commencer par ça, cette notion de nécessité. Est-ce qu'une revue culturelle est nécessaire? Moi, je ne crois pas, et je dirais heureusement. La nécessité d'une revue, ça serait la nécessité finalement de ses acteurs, c'est-à-dire une nécessité éthique, mais au niveau de la nécessité proprement dite, moi j'appellerais c'est plutôt un droit. On a le droit de parler, on a le droit de réagir, on a même probablement le devoir de le faire, et on est dans une société qui le permet encore. S'il s'agissait que de nécessité, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de la même société. Parce que si on parle de nécessité économique, on n'a pas besoin de revue. Si on est dans une société, disons, par exemple, à connotation fasciste, là, la nécessité, elle sera politique. Il faudra intervenir de façon clandestine, et ainsi de suite. Nous, notre nécessité est un peu particulière, elle est molle. Je veux dire. Mais par contre, si elle sert à quelque chose, c'est bien à nourrir la pensée. Mais encore, faut-il dire comment on la nourrit? Alors, évidemment, Pierre avait raison de parler d'une éditoriale, parce qu'il y a tellement de bruit dans notre société qu'une éditoriale permet de percer un tant soit peu ce bruit. L'une éditoriale, pour moi, dans la société du début du XXe siècle, c'est comme un slogan. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée. On va dire, bon, écoutez, venez nous voir, on va causer de ça. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'invitation de Patrick et de Jean-François à ce colloque, que moi je trouve admirable dans l'idée même d'être fait, je me suis dit, mais moi je n'ai pas du tout envie d'exposer la vie de 24 images. Moi j'ai envie de discuter. Je veux dire, comme je suis dans une revue pour discuter. Avant tout, ça part du salon, c'est-à-dire l'envie de discuter avec des gens, de façon plus ou moins arrosée, mettons. Et ça, par cercle concentrique, ça s'étend. Aujourd'hui, avec l'apparition du net, cette façon de s'étendre a pris de nouvelles directions. Ça m'amène à un troisième point. Bon, je ne sais pas, enfin, huitième. La notion de la localisation. Une revue papier, elle, est localisée. Elle est, c'est pas parce qu'elle est diffusée aux quatre coins du monde qu'on peut nier sa localisation. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'équipe éditoriale est souvent composée majoritairement de gens du Québec, dans notre cas. Ensuite, parce que lorsque, dans le temps, la revue avait encore un rôle à jouer en termes d'actualité, il fallait parler de l'actualité. Et dans le cas du cinéma, par exemple, cette actualité était donnée, mettons, par les sorties montréalaises, par les rétrospectives de la Cinémathèque, et ainsi de suite. Ce que nous a donné l'Internet, c'est de pouvoir laisser l'actualité quelque part de ce côté-là et s'intéresser au niveau de la revue à des phénomènes un peu plus large, c'est-à-dire d'agréger des choses un peu plus vastes qui nous concerneraient, qui ne concerneraient pas simplement une actualité, je veux dire, de sortie, mais bien un être au monde. C'est-à-dire que moi, je considère que j'habite à Montréal, au Québec, au Canada, au monde, et ainsi de suite, et ça m'intéresse, cette ouverture. C'est-à-dire que cette ouverture en cône est quelque chose qui me fait vivre. Donc, la revue va pouvoir, à mon avis, de plus en plus se concentrer sur ce bruit, justement, mais un bruit qui dépasserait la simple sortie d'un film. Sur Internet, c'est encore plus vivace, d'une certaine manière, parce que là, on peut carrément se poser la question de la localisation. Un site Internet n'est pas localisé physiquement. Bon, si, il y a un serveur, mettons, mais disons qu'elle est globalement dans un réseau. Et ça, ça nous oblige à repenser la manière dont on écrit. Parce que si on dit qu'on écrit de Montréal, ben, il faut vraiment en prendre conscience, peut-être encore plus sur Internet que dans une revue papier. Parce que les gens, par hasard, souvent, vont être en présence de ces mots-là et il va falloir savoir à qui ils s'adressent. Donc s'ils s'adressent à des gens qui parlent de Montréal, mais qui parlent aussi du monde, eh bien, il va falloir le noter. Pour moi, tout ça, finalement, c'est une histoire de prise de parole. Et peu importe la manière dont on prend parole, je veux dire, il faut la prendre. Pas juste prendre parole, la parole, mais il faut la prendre. Et ça, c'est important, de quelque manière qu'on le fait, quitte justement à participer à ce bruit. Un des grands problèmes aujourd'hui qu'on vit au niveau médiatique, c'est justement ce bruit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, on a accès à tellement de choses qu'aujourd'hui, plus rien n'a de sens. N'empêche que moi, si je suis contre ça, et si, à mon avis, l'exercice critique est un exercice contre, pas au sens négatif, hein, contre, être contre, il faut avant tout être tout contre. C'est-à-dire que j'ai absolument pas envie de m'isoler dans ma tour d'ivoire, car sinon je vois pas l'intérêt d'une revue ou d'une pensée. Une pensée doit se déployer, sinon elle est amenée à mourir. Donc, pour moi, les nouvelles technologies, l'arrivée d'Internet a été avant tout une ouverture, mais une ouverture dont il faudra prendre compte dans l'avenir. Car l'idée, c'est de ne pas répliquer une revue papier sur Internet. Tous autant que nous sommes, nous avons d'abord créé les sites web comme outils de promotion et outils de communication. Demain, il faudra plus que jamais qu'on prenne conscience du médium. Alors, il y a la notion technologique, hein, la notion d'hypermédia, c'est-à-dire, pour nous, évidemment, en cinéma, la possibilité d'ajouter des images et des sons à notre propos est particulièrement importante. Mais c'est vrai pour tout un chacun. Je veux dire, une prise de parole, un discours, je veux dire, un dialogue, une table ronde, un colloque, c'est différent si on le lit dans une revue ou si on l'écoute et on le voit sur un site Internet. Cette différence, il faut la noter. Il ne faut pas simplement, je veux dire, la prendre en compte. Là. Il faut la noter et aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on décide d'enregistrer un colloque et qu'on va le mettre ensuite dans une revue papier ou sur un site Internet, il faudra prendre conscience que ce ne sera pas le même colloque parce qu'on ne diffusera pas la même chose. Hein, je veux dire, sur une revue, on mettra ça sur 10 pages. Et je veux dire, il va falloir faire des choix, il va falloir faire œuvre rédactionnelle. Sur le site, on le mettra, dans un premier temps, si on n'a pas les moyens, in extenso. Et si on a les moyens, on le montrera. Dans les deux cas, on montrera, mais on ne montrera pas de la même façon. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, je ne sais pas combien de temps je parle, là. Mais pour finir, je dirais que pour moi, Internet, c'est avant tout un nouveau médium. Que si, dans un premier temps, c'était simplement la possibilité de répliquer et de trouver de nouveaux lecteurs, de nouveaux débouchés, de nouvelles diffusions, c'est très bien, mais ça doit être amené beaucoup plus loin avec ses propres spécificités. Et moi, j'ai une proposition à vous faire. Je veux dire, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que là, on se réunit, on est à peu près un représentant par revue, quoi, je veux dire, hein, deux représentants par revue, ce qui est troublant, parce que finalement, la plupart des gens qui sont ici, c'est parce que là, pour le coup, c'est par nécessité. Soit ils ont à parler, soit ils l'organisent, soit des choses comme ça. Le net va nous permettre demain d'aller plus loin là-dedans, c'est-à-dire que le net permet aux gens, je veux dire, d'intervenir. Comme nous intervenons là-dedans. Peut-être que nous sommes entrés dans une époque où le plus important, c'est non pas d'imposer notre pensée, mais justement d'entrer en dialogue. Alors, pourquoi l'ensemble des revues aujourd'hui ne prendrait pas, puis je parle à Pierre, la suite de la défunte chaîne culturelle. Je veux dire, Spirale a monté Radio Spirale. Moi, je trouve ça exemplaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre nous qui vont podcaster des émissions sur France Culture ou d'autres chaînes comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher, parce qu'on en a les moyens, parce qu'on a le contenu. On ne montrerait pas une radio web, je veux dire, une radio sur les arts et la culture. À nous tous, je veux dire, on a de quoi faire une programmation. Et on en a les moyens parce que ça coûterait pas cher si on se réunissait. Donc faisons-le. Merci.
Alors merci beaucoup pour ces pistes de réflexion et d'action. Et maintenant nous allons ouvrir ce dialogue et voir un peu les réactions de la salle.
Je vais abuser de ma position, faire suite à ce que vient de dire Philippe. L'invitation a quand même été lancée déjà à plusieurs d'entre vous pour Radio Spirale. Et je la refais parce que oui, il y a moyen de faire quelque chose qui dépasse le simple nom de Spirale avec ce projet-là. Et moi, je suis une réaction comme celle de Philippe m'emballe. Il y a quelque chose là de tout à fait intéressant. Et venez me voir, on va en parler.
Alors, bonjour. J'aimerais parler en tant que lecteur, abonné un petit peu, acheteur de revues un petit peu plus et lecteur d'articles de revues encore davantage. Et ce que je fais dans un kiosque de journaux ou bien sur le site Internet, c'est que je cherche des contenus. Je ne cherche pas 24 images, je ne cherche pas Spirale, je cherche des sujets qui m'intéressent et j'essaie de trouver les articles qui vont être liés à mon sujet. Alors, ce n'est pas une revue pour moi qui compte, là. Je suis sur aucun conseil d'administration, qui que ce soit. Et en même temps aussi, je m'occupe du site Jacques Ferron Écrivain qui existe bientôt depuis 10 ans, donc qui n'est pas une revue, mais qui est une publication culturelle, bon, sur la littérature québécoise. Et ce que je m'aperçois avec le vieillissement du site, c'est que mon contenu, qui est quand même très important, avec la masse d'informations qu'il y a, il devient comme de moins en moins visible. Et ce que je sais, par contre, c'est que la seule voie pour assurer une meilleure présence, une meilleure visibilité, c'est de lier mon contenu, qui n'est pas seulement sur Jacques Ferron, mais sur tout il a parlé de tout, finalement. Il a publié dans plusieurs de vos revues, et dans beaucoup de vos revues, vous avez parlé de Jacques Ferron. Sauf que ces liens-là ne sont pas comme organisés, ne sont pas organiques. Alors, pour moi, il me semble que sur le plan de la visibilité, de rejoindre le public, ce qui serait important, c'est que vous mettiez ensemble comment lier vos contenus. D'abord, est-ce que vous savez si un de vos articles, il est mentionné ou cité dans une autre revue? Est-ce que vous savez ça? Oui, peut-être, on ne sait pas. Il me semble que ça, c'est déjà une voie simple qu'on pourrait explorer. Mais il me semble qu'une espèce de groupe qui réunit les revues et peut-être aussi des gens qui font des publications culturelles comme nous, et essayer de voir justement comment lier l'ensemble de nos contenus pour que donner globalement une meilleure visibilité à tout cela. En tout cas, ça me semble vraiment, compte tenu de l'évolution de la technologie, et je me demandais, on utilise de plus en plus des bases de données, bon, et je me demandais, M. Robert, un des problèmes souvent des bases de données, c'est que les informations qu'on y met sont comme dans le web invisible. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être indexés par Google. Alors, il y a là une sorte de problème. Il y a des stratégies où le contenu de la base de données est aussi indexable, mais c'est complexe. Alors, je pense qu'une seule petite revue ne pourra pas vraiment développer un bon système de référencement. Il faudrait que qu'il y ait une réflexion générale sur comment lier tous nos contenus. Merci.
Oui, vous avez parfaitement raison concernant la mise en réseau des divers contenus. C'est une avenue très intéressante et je pense que c'est une avenue qui est possible. Et donc, c'est à encourager. Bien sûr, on est toujours un peu en parallèle sur Internet avec les grandes corporations comme Google. Et de ce côté-là, par contre, il y a des progrès. Quand vous parlez du web invisible, il y a des façons de faire pour indiquer aux robots chercheurs d'informations qu'on est sur base de données et qu'on leur donne un accès à un contenu textuel. Donc, c'est possible de ce côté-là. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait de votre avis. Les recoupements de contenu, s'ils s'avèrent d'une certaine pertinence, ça serait quelque chose à réfléchir et à construire, sûrement.
Moi, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on ne lit pas de la même manière sur Internet et une revue. Je pense non plus qu'en termes physiques, ce ne sont pas du tout les mêmes objets. Alors, un DVD, c'est un objet, une revue, c'est un objet, un site web, c'est aussi un objet, mais ce ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Moi, je lis beaucoup de journaux, mais je les jette. Je lis des revues, je les garde. J'achète des DVD, je les garde. Et sur Internet, par contre, je ne fais que passer. Donc ça, c'est une réponse un peu à Pierre tout à l'heure. Je veux dire, oui, quelque part, par sa fonction archivistique, Internet est très intéressant parce qu'il conserve tout. Mais le tout est l'ennemi parfois de la précision. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, on ne garde plus nos pages. Je veux dire, elles existent encore. On sait, trois jours après l'avoir lu, qu'on pourra aller la retrouver. Mais dans cette masse étonnante, je veux dire, ça va être compliqué à retrouver parce que tout simplement, on ne passera plus à aller la chercher. Pour moi, quelque part, si je voulais faire vous allez voir, c'est assez faux, mais je trouve ça intéressant. Quelque part, pour moi, Internet me sert de dictionnaire et les revues d'encyclopédie. C'est-à-dire que aujourd'hui, en cinéma, je ne me vois plus vivre sans Internet, sans notamment les grandes bases de données comme Internet Movie Database, qui sont des flux d'informations. Et je m'en fous d'ailleurs que ces informations soient vraies ou non, quelque part, parce que ces informations sur lesquelles tout le monde passe. Donc il y a peut-être moins d'erreurs, hein, c'était même, bon, il y a des études là-dessus, sur un gros dictionnaire comme IMDb que dans l'encyclopédie universaliste, c'est assez amusant à savoir. Mais pourtant, dans l'un comme l'autre, c'est pas ça qui me préoccupe. Dans Universalis, je vais m'asseoir et je vais prendre quelques heures pour aller chercher à déflorer une pensée. Sur IMDb, je vais chercher des dates, je vais chercher le nombre de films qu'a fait un tel, et ainsi de suite. Donc, je sais que moi, je ne fais pas exactement la même chose sur Internet que sur papier. Je pourrais, je veux dire, Archer est probablement la première revue électronique que j'ai lue, et au début, j'essayais de la lire comme un journal, je veux dire, comme une revue. Je l'ai perdue. Devant le flux, en fait, qui m'était offert, j'ai perdu ça, quelque part. Et c'est vrai que là, je trouvais ça intéressant de retrouver un peu Archer, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé sur Archer, curieusement, quoi, je veux dire. Mais au début, Archer était assez seul. Des revues électroniques comme Archer, il n'y en avait pas beaucoup. À mon avis, c'est une des premières au Québec. 97, c'est peu de temps après 94 qu'est les débuts pour nous autres, en fait, de l'accès au web, d'une certaine manière. Donc, ça a été extrêmement important. Aujourd'hui, je veux dire, des revues ou des publications ou des sites et ainsi de suite, bon, on ne sait plus que faire. Et effectivement, comme vous dites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'hyperlien. C'est-à-dire qu'on va aller, on va pas aller regarder une publication, on va aller regarder un sujet. Et ce sujet va nous amener de lieu en lieu. La notion de lieu est très différente sur Internet et dans un kiosque à journaux, en fait.
Oui, je t'en prie.
Relativement toujours à votre question, à force d'y réfléchir et d'entendre mon collègue, il y a deux choses par rapport au fait de faire des liens entre les contenus. Le problème se pose du côté de ceux qui produisent ces contenus-là. et non pas chez ceux qui vont recueillir l'information. Donc, c'est vraiment, je pense, la responsabilité de chacune des revues ou des sites web de bien référencer leur propre site. Alors, donc, ça, c'est je pense que c'est par là que ça va se régler plutôt que l'inverse. Et que dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment lieu d'une coalition ou d'une entente commune pour aller chercher une structure qui permettrait de réaliser ça. Je pense que ça sera pas très avantageux au bout du compte. Et deuxièmement, question de contenu aussi, il y a un autre problème qui est majeur, c'est que les contenus papier pour lesquels on paye une unité, ils peuvent pas diffuser leurs textes sur Internet gratuitement. Alors donc, il faut qu'ils deviennent payants sur Internet. Et donc, la question d'accessibilité au contenu et au recoupement est un peu entravée à cause de ce double système de diffusion.
Vous avez tous parlé de la création d'une communauté virtuelle via l'accès à vos sites. La question que je me pose, c'est quelles sont les stratégies que vous utilisez pour rejoindre cette communauté, pour la créer, pour véritablement réussir à attirer un public. Ça semble un peu trivial, mais comment est-ce qu'on fait sur le web pour aller chercher un lectorat? Parce que une revue papier, c'est d'une certaine façon plus facile. On arrive au kiosque à journaux. On peut feuilleter, on peut être attiré par la couverture, etc. Sur le web, comment est-ce qu'on va chercher ce lectorat? Je ne sais pas si vous avez la réponse.
Excusez-moi, je me permets de prendre la parole au nom de DPI. Je dirais, dans le cadre spécifique de cette revue est rattachée à un centre d'artistes qui s'appelle le Studio XX. Donc, dans ce cadre-là particulier, le Studio XX, c'est une banque de données qui est vraiment mise à jour de façon continue, qui regroupe à peu près 2000 données, qui sont des individus, qui sont aussi des associations, mais qui sont aussi d'autres listes qui, elles, reprennent l'information et la font recirculer, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que, bon, on parle du web, donc on parle toujours de réseau, et c'est donc repris dans un réseau qui est un réseau international. Et comme des pays... Je ne peux pas dire qu'il est vraiment bilingue, mais des articles en français et en anglais. Il y a un éditorial qui est dans les deux langues. Alors, à ce moment-là, ça nous permet humblement de pouvoir toucher un public, en tout cas, qui comprend l'anglais. et le français, bien sûr, c'est un peu plus présent dans la revue. Donc, je dirais que c'est un peu de cette façon-là. Mais c'est toujours une chose qui est assez difficile aussi, parce que ça demande des moyens, ça demande du temps, chose qu'on n'a pas beaucoup. Et que dans le cadre particulier de DPI, comme elles l'ont mentionné, c'est les personnes qui participent, c'est bénévole. Et moi, j'y mets un peu de temps que j'ai déjà, qui n'est pas un temps plein dans la revue. Donc, mais pour nous, principalement, c'est la façon de faire connaître la revue.
Pour répondre à ta question aussi... Par exemple, un moteur de recherche comme Google, il va voir si l'hyperlien, par exemple, Archive, pour prendre cet exemple-là, se retrouve sur combien de pages. Alors, c'est ce qui va déterminer l'importance du lien relativement à la requête de l'internaute, d'une part. D'autre part, ce qui donne un peu plus ou moins d'importance. Donc, si les gens citent Archive sur d'autres sites, ça crée un réseau que reconnaissent les robots chercheurs. Ça, c'est vraiment la façon la plus... Donc, plus on se diffuse, plus on insiste pour plus ou moins, du moins, faire des alliances et des échanges. Ça peut être facilitant. D'autre part, la meilleure façon, c'est que dès que tu as un internaute sur ton site, là, il faut que tu le mettes en cage. Dans le sens qu'il faut vraiment que l'aspect de... la facilité de lecture, la facilité de repérage sur la page, hein, tout l'aspect ergonomique soit vraiment de haute qualité ou d'une qualité suffisante pour que l'internaute puisse accéder au contenu en quelques secondes et pas qu'il commence à se chercher et où, par où je passe, etc. Donc, ça, l'accessibilité, c'est vraiment fondamental.
Moi, je voulais ajouter quelque chose pour DPI. Tu parlais de communauté cyber créée par la revue. C'est aussi des communautés qui créent ces revues. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement la conséquence, c'est aussi une cause des pays, point des pays précisément. C'est né d'une envie, et moi j'ai envie de dire d'une nécessité, même si elle est molle, ça reste une nécessité. Ce n'est pas forcément le besoin d'être dans une société fasciste pour réagir.
C'est pas ce que je voulais dire.
Non, ouais. Moi je pense qu'il y a nécessité de réagir au quotidien. Et c'est des communautés qui vont créer une envie, un besoin auquel va répondre une page, des pages, pour s'exprimer et pour dialoguer ensemble. Et le web permet ce dialogue. Donc, c'est ce qu'on essaie de pas faire enfin, avec Point des Pays, mais c'est sûr qu'on reste. Alors, ce qu'on disait aussi par rapport à la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, ça conditionne le point de vue qu'on va exposer, ça conditionne les gens qui vont nous regarder. C'est-à-dire que, oui, on va chercher un certain public en étant un magazine web qui propose aux femmes un lieu d'expression sur les arts et technologies. C'est pas forcément qu'on va se fermer des portes, c'est un point de vue et un dialogue qui va se créer à partir d'une communauté en effet spécifique, mais c'est une ouverture pour cette communauté-là. C'est toujours le... Enfin, c'est toujours le... Enfin, les grosses discussions qu'on a en ce moment au comité, c'est ça. C'est-à-dire, oui, il faut quand même avoir une ligne suffisamment forte pour pouvoir tenir une idée, voilà, une idée et la développer, et pour qu'il y ait des réponses face à une idée précise. Parce que si c'est très large, ben on va peut-être pas forcément cibler quelqu'un et on va peut-être pas forcément intéresser certaines personnes. Enfin, ça, c'est aussi par rapport à notre point de vue, à DDPI. Quoi.
Nous avons une autre question.
Oui, ma question porte sur le défi de la production et de l'entretien. Je donne des cours de sociologie des communications à l'Université du Québec en Outaouais. La job la plus fréquente chez mes étudiants, c'est d'entretenir le site web d'un ministère ou d'une agence gouvernementale. Ils font ça à temps plein et ils ont un salaire. Comme utilisateur d'Internet, j'ai déploré la mort de plusieurs sites que j'aimais consulter par épuisement des ressources humaines et matérielles. Comment vous faites, parce que c'est quand même complexe à entretenir, comment vous faites pour vous assurer la continuité de telles ressources? Parce que là, on peut difficilement parler de bénévolat à temps plein. Là, à un moment donné, quelqu'un doit donner place un peu à ce qui lui permet de vivre.
Quelqu'un souhaite répondre à cela?
Oui.
La seule solution, c'est de tout informatiser. Alors, finalement, nous, on répond pas à nos courriels, c'est un robot. Non, c'est une blague. Non, dans le sens où, effectivement, l'informatisation est très facilitante. Nous, la base de données, tout ça, il y a vraiment un système en place qui permet de produire, diffuser, de mettre en ligne rapidement, en quelques heures. Ce qui fait que ça épargne énormément de temps. Donc, le temps qui est consacré à la revue, c'est vraiment un temps de réception et de lecture, simplement. Pour ce qui est du reste, c'est pas si lourd que ça, finalement. Mais bon, c'est pas le cas de toutes les revues. Oui.
Nous, à Point des Pays, on a la chance, justement, de quand même être affilié au Studio XX. Et Studio XX a une webmaster et qui s'occupe... Mais quand même, je pense, sur son temps de travail de Point des Pays, on a eu notamment des... En regardant, pour préparer cette présentation, on s'est rendu compte que le contenu web n'est pas... éternel, on va dire. Et en effet, la première question qui s'est posée, c'est pas parce qu'on est une revue web qu'on ne risque pas d'être oublié et de créer trop de bruit pour se faire voir. Le numéro des Pays 13, ça s'appelle « Documenter l'oubli », et c'est en référence notamment à Bernard Stiegler, qui pense énormément à la nécessité d'oubli à l'heure actuelle face à une masse constante de documents, et notamment via le médium qu'est Internet, qui nous crée une mémoire instantanée, mais pas une mémoire sur du long terme. Donc, on le voit bien au quotidien dans nos revues.
Bon, effectivement, la première réponse pour moi, c'est celle de Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une nécessité, mais évidente, de ne pas être prisonnier d'un informaticien. Ça, c'est très important. Les informaticiens sont payés 8 fois mieux que nous. En montant. La deuxième chose, bon, Hélène qui posait la question, Hélène Faradji, la rédactrice en chef du site, c'est que 24 images ne veut pas de bénévolat. Le bénévolat, c'est extraordinaire en termes éthiques, c'est nul pour la suite des choses. Donc, on paye. Alors, évidemment, comme on n'a pas les moyens, on paye symboliquement, mais j'aime beaucoup les symboles. Mais c'est important pour moi parce qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est qu'on ne sait pas chiffrer la culture. Alors, je ne suis pas économiste, je n'ai pas du tout envie de retomber dans la campagne fédérale, mais la culture a un coût, et ne serait-ce qu'en payant symboliquement, au moins, on contribue à nommer ce coût. Et ça, c'est important pour moi. Je veux dire, si la société dit on a besoin de la culture, alors il faut qu'elle l'assume. Donc, il faut payer. Il faut payer, évidemment, après, ben, je veux dire, là, l'arithmétique rentre en ligne de compte, c'est-à-dire on ne peut pas payer comme on devrait, comme on aimerait, surtout, plus exactement. Mais ça, c'est fondamental pour moi.
Comment est-ce que les subventionneurs justifient-ils ce refus de la subvention actuellement aux médias électroniques?
Rien. Zéro. Tout à fait.
Mais est-ce qu'ils justifient leur position? Non.
Non. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'effectivement, le Conseil des arts du Canada reconnaît la notion de périodique électronique, alors que les deux autres conseils des arts, donc du Québec et de Montréal, ne le reconnaissent pas. En fait, on la connaît, la raison. La raison, c'est qu'ils ont un certain nombre de revues, un certain montant à allouer, et que c'est la première raison pour laquelle on ne va pas en faire rentrer d'autres. Donc, chaque année, c'est au compte-gouttes. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que les revues, elles appartiennent à qui ? Elles appartiennent finalement à nos gouvernements. C'est eux qui les subventionnent à 50, 60, 70, 80 %. Et en général, je veux dire, un conseil des arts ne veut pas voir mourir les revues. Donc, ils vont les maintenir sans se poser la question parfois même de leur pertinence, parce que ce n'est pas à eux de donner de porter ce jugement de la pertinence. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que, comme la galette, elle n'a jamais augmenté, hein, je crois que le montant des financements depuis 15 ans est le même, ce qui veut dire que, du coup, on a beaucoup perdu, là, et ben, il y a peu de nouvelles choses qui rentrent. Alors, mettre le mot électronique, tout d'un coup, ça créerait un immense afflux et il serait bien capable de réagir face à ça.
Peut-être, étant donné l'heure et étant donné qu'on a une réservation au restaurant Le Pèlerin Montgélan où on invite tous les participants à venir nous rejoindre et aussi le public, si vous le souhaitez, mais on a des places réservées pour les participants, que ce soit bien clair. Je vous invite peut-être à une dernière question, Sylvette, et ensuite, je pense qu'il faudrait qu'on pense y aller si on veut pouvoir revenir à temps cet après-midi. Mais comme vraiment l'invitation vous est faite de venir au restaurant avec nous. Moi, j'espère qu'on va pouvoir continuer à discuter sur place, là-bas.
J'ouvrais
une boîte de Pandore. Ah non, mais on l'aime, Pandore. Je pense que sa boîte commence à être un peu lourde à porter, la pauvre, mais...
En fait, j'ai un peu réagi au dernier commentaire de Philippe qui dit que les conseils des arts... comment tu disais ça, Philippe, ne veulent pas parce qu'ils possèdent les revues, ils ne veulent pas les laisser mourir et que blablabla. Bla bla. Et puis ça me en tout cas tout l'aspect politique que moi je retiens là-dedans que je voudrais questionner. J'ai une petite question pour Pierre aussi, mais écoute, est-ce que tu as déjà été sur des jurys des conseils des arts? Est-ce que tu crois sincèrement qu'il n'y a pas une prise de position, qu'il n'y a pas un jugement qui est fait, qu'on laisse comme ça aller les revues sans vouloir les questionner? Ou... J'aime pas entendre ça parce que j'ai été souvent sur des jurys et j'ai l'impression que si on a créé les jurys de pairs, c'est pour avoir une parole, c'est pour que cette parole-là ait un sens.
Alors, curieusement, mon commentaire n'était pas si négatif que ça. Il n'était pas négatif, je veux dire, parce que quelque part, en fait, je me mets à la place de l'institution et j'aurais exactement les mêmes problèmes, au sens où, comment faire un choix? Je veux dire, même face à un jury de pairs qui souvent est un jury de pairs au sens, ça n'en a que le nom, parce que la plupart des jurys avec lesquels je me trouve ne connaissent un tout petit aspect de ce qu'ils auront à juger, ce qui est normal, je veux dire. Hein. La plupart du temps, ils sont bien contents de trouver des règles qui font que, je veux dire, leur prise de position... Et au Conseil des arts du Canada, on peut perdre au maximum 5 % par année. Et on peut gagner au maximum 5 % par année. D'accord. Et je ne critique pas. Je veux dire, là, moi, je donne des faits pour l'instant. Et effectivement, si j'avais à penser jury de pair ou jury pas de pair, moi, je suis pour les jurys pair, bien entendu. Ou si j'avais à penser de nouvelles règles arithmétiques, je serais bien emmerdé. Le Conseil des arts du Canada, il y a combien ? 6 ans, a pris en compte le fait que certaines revues, dont 24 images, dont Parachute et ainsi de suite, étaient beaucoup mieux dotées que d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, ils ont décidé de mettre une grande partie, d'allouer une grande partie de la somme sur une base objective, sur une base arithmétique. Très bien. Je veux dire, donc 24 images depuis, voit son budget diminuer chaque année. Très bien aussi. Moi, je veux dire, je suis pour la pluralité des revues. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt d'un monde avec juste 24 images. Par contre, je sais pourquoi ils font ça. Je sais pourquoi ils ne nous coupent pas de 50% d'un coup. Parce qu'ils ne veulent pas mettre à mort 24 images. Couper 50% une revue qui a un train de vie, entre guillemets, comme un ménage, ça serait la faire mourir. Donc, effectivement, c'est complexe, ces règles à mettre en place. Et moi, personnellement, je veux dire, je n'ai pas de nouvelles règles à proposer. Moi, je citais juste un fait. S'il y a peu de revues qui sont... Il y a énormément de revues qui naissent, mais il y en a peu qui sont subventionnées en plus chaque année. C'est pour des raisons, justement, de part de gâteau à distribuer.
Alors... D'accord. J'ai une dernière petite question pour Pierre. Tu disais revenu zéro égale pas de contraintes politiques. Et maintenant, tu es subventionné. Est-ce que tu crois que le financement public, encore une fois, t'oblige à changer à avoir des contraintes politiques ou à changer ton contenu éditorial, par exemple?
Non, pas du tout, parce qu'on n'emprisonne pas en bas de 5 000 $. Alors, c'est une blague, là, mais non, pas du tout. C'est aucune contrainte.
Merci aux quatre participants et participantes pour cette discussion très, très stimulante et bon appétit.